Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est vraiment un casse-pipe chinois.
Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite.
Les mêmes choses, vous pouvez même traduire, parce que je parle pas toutes les langues en étranger, donc...
J'essaie d'apporter des idées, c'est ça qui m'importe, et c'est pour ça que je suis là, à l'Afterfoot, qui est la messe du football.
Jusqu'à minuit, l'Afterfoot...
Nicolas Jamin.
RMC l'Afterfoot, merci d'être avec nous. 23h03, Florent Gautreau est là, Maxime Chano aussi, Daniel Riolo également. Tiens, quelques matchs, les amis, de prépa pour le mondial. On est l'air de rien à 9 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. On sera sur place, vous le savez. Daniel sera là, Flo sera là, Max sera là. Oui, Dacher Chour, Kevin Diaz aussi, Gilbert, bien sûr, pour vous accompagner très tard dans la nuit, tout au long de cette Coupe du Monde qui démarre dans 8 jours désormais. Tiens, la Belgique s'est imposée 2-0 en Croatie. Tillmans, Lukaku sont les buteurs. On a également le Maroc qui a battu Madagascar 4-0 avec la première comme titulaire, d'Ayoub Bouadi, le Lillois, avec un doublé de Saïbari ce soir pour les Lions de l'Atlas. Un partout entre le Pays de Galles et le Ghana, et puis un partout entre la Géorgie et la Roumanie. Voilà pour les matchs du soir. Le tennis Roland-Garros, Daniel se prend la tête.
C'est franchement
suspense,
c'est terrible,
énorme.
Fin de match, elle est démente.
Mensik Fonseca, Eric Salio.
Fabuleux ce match avec trois balles de match sauvées par João Fonseca, mais la quatrième arrive dans quelques instants parce que Mensik fait des miracles. Il frappe très fort, il a aussi une main extraordinaire à l'image de cette contre-amortie qui a pris de vitesse.
Mais j'arrive pas à le voir fort, ce Mensik, Eric.
Ouais, bah, viens ici, tu verras la diff. Oh, volée amortie magnifique de Fonseca sur la numéro 4. Alors là, passez-moi l'expression, c'est couillu parce que service volé amorti,
c'est extraordinaire.
Wow. 4 de sauvés. 4 de sauvé, 2-7-0-6-4-6-3. On est à 6-5, 40 ans, j'ai pas eu le temps de vous le dire. Et si jamais Fonseca prend ce jeu, il prend le tie-break derrière, ouais, et on va au bout de la nuit.
Il a servi pour le 7, attention, faut le dire.
Ouais, mais il s'est fait reprendre. Parce que l'autre tourne incroyablement bien. Est-ce qu'il y aura une cinquième occasion?
Mais j'arrive pas à le voir bon, ce Mensik, qui fait quoi de bien?
C'est un bloc, c'est un monolithe, quoi.
Je vois pas ce qu'il fait de bien.
Tradition tchèque, quoi.
C'est balle de match à venir. Balle de match. La cinquième à venir.
Oh là, il va finir par
la faute en revers.
Direct, revers.
Bon, Eric, tu nous préviens, c'est terminé.
Non, attends, c'est la bonne, là.
Vas-y,
approche-toi.
Nico,
c'est Mensik,
Fonseca.
On est avec nous, là.
Hier, Nico, c'est pas joli, joli ce que t'as fait hier. Hein.
Pour quel match?
Ouais, tu sais très bien.
1h15, Zabalenka contre 1h15, Osaka.
Bravo la dernière.
La numéro 5. Allez, service.
On voit que tu pèses pas trop auprès d'Amélie. Hein.
Vas-y. Ouais, il appuie fort avec son coup droit. Fonseca est sauvé.
Mais non,
voilà pourquoi. De sauver.
Ouais. Non, c'est quoi, Eric? Tu nous tiens au courant? C'est encore une fois de match.
Hein, la fin de match, elle est folle. Bon, s'il s'en sort, c'est un délire.
Ok, on l'a compris. Notre invité qu'on accueille après Damien Perrinel, un grand visage de l'arbitrage français.
Ah oui.
Il s'est arrêté juste avant le début de l'after. Il a eu la chance en 2005.
Bah non, pourquoi il a eu la chance?
On
aurait pu dire que c'était le numéro 1 de l'arbitrage, comme on a fait avec les Turquin après.
On défend les
enfin un classement des surtout, des numéros 1. Et surtout, c'est vrai, il va falloir lui dire ça en ouverture. Bon, d'abord, bonsoir, monsieur Vessière.
Bonsoir, monsieur Vessière.
On s'est toujours revendiqué comme l'émission qui a défendu les arbitres.
Bien sûr.
Tout le temps. On ne supportait pas les dirigeants qui passaient leur temps à expliquer leur défaite par le biais de l'arbitrage.
Je vous l'accorde et vous aviez raison.
Merci, monsieur.
On l'a redit hier à Olivier Létang.
J'ai l'impression que vous êtes. Là, je vois certains livres, qui s'appelle Monsieur l'Arbitre, autobiographie, Gilles Vessière, édition Vaillant. Là, je vous vois en vrai. Vous êtes plus fit que quand vous étiez arbitre, j'ai l'impression.
Comment c'est possible?
C'est pas impossible.
Après, j'avais de la mauvaise habitude d'arbitrer avec beaucoup de couches dessous.
Ah, d'accord.
C'était
les épaisseurs. C'est pas le vice, c'est les épaisseurs.
Il y avait de l'épaisseur.
Bravo, Nico. Bravo, bel accueil.
Il y avait de l'épaisseur. Donc, vous voyez, je fais un revers, fais un retour, moi.
Si j'y vais, parce que on sait que Gilles Vessière est un gros caractère parmi les arbitres également. On va en parler, personnalité très affirmée. On parlera de Luis Fernandez aussi, inévitablement.
Et le fameux parti chambreur sur le terrain.
Oui, j'étais chambreur.
Est-ce que des joueurs vont reprocher d'être chambreur?
Non, certains joueurs. Parce que je préfère chambrer que mettre un carton. Je suis l'arbitre qui a mis le moins de cartons en matière de contestation. Parce que je partais du principe que mettre un carton jaune à un joueur, tu punissais toute l'équipe pour contestation. Après, il y a un tirage à maillot ou quoi que ce soit, il se retrouvait à 10. Et à partir de là, ça déséquilibrait complètement le match.
Ça veut dire quoi, chambrer?
Bah, ça veut dire que quand il venait me chercher parce que j'avais loupé un coup franc ou un corner, je lui disais que tout à l'heure il avait loupé le cadre alors qu'il était à 5 mètres du but. Et que moi j'étais pas venu lui taper sur l'épaule pour dire il faudrait peut-être me faire plat du pied ou avancer ou quoi que ce soit. Et je préférais.
Tu l'aurais bien pris, Max, sur le terrain d'arbitre.
Tu me connais. C'est dur à prendre, mais je suis un ancien joueur, monsieur l'arbitre.
Peut-être que vous avez arbitré le match.
Maintenant, 95. Ah non, 2005, pardon.
Je sors en 2005.
Ouais, moi je commence en 2006.
Non, ça parle bien.
Ouais. Attends, alors, juste une petite question. Je mets les pieds dans le plat parce que vous parliez que vous étiez chambreur.
N'hésitez pas.
Ouais. Est-ce que ça vous est arrivé d'insulter des joueurs?
Jamais.
Non.
Jamais.
Non.
Ah bah, tu serais très étonné. Tu serais très très étonné. J'ai joué les deux dernières années en Ligue 2 et j'ai eu quelques. Alors on peut parler d'arbitre étranger.
Vraiment la grosse insulte.
Ah, on y va sur les maires et compagnie. Ouais,
mais non.
Je peux te jurer.
Ah bah vas-y, donne-moi un nom.
Allez, sors.
Sors les Weibos sur la table. Qui t'a dit ça?
Laisse-moi regarder sur Google. Je vais trouver Allo Faciès. Écoute-moi. Non. Monsieur l'arbitre, je vous assure, et c'est arrivé plus d'une fois. Alors, ça m'arrive de taquiner les arbitres. Et en réponse, j'ai eu le droit des noms d'oiseaux qui étaient quand même très moyens pour ma mère.
Surpris, Gilles Vessière, ou pas? Ça, vous savez que certains collègues, confrères
Ça me surprend. Ah bon. Après, il peut tomber sur des arbitres en bout de ligne, en deuxième division. Donc, les garçons, ils ont peut-être au fond d'eux-mêmes un peu de rancœur et ils se lâchent. Je pense que c'est plutôt ce style d'arbitre que vous avez rencontré parce qu'un jeune prometteur, il se mettrait pas dedans.
Bon, je rappelle votre carrière quand même pour les plus jeunes.
Oui, rappelons, parce que c'était un arbitre important à son époque.
Majeur de notre Ligue 1, bien sûr. 15 années au plus haut niveau professionnel, 90-2005.
Exact. 15 années, c'est le max qu'on peut faire?
J'ai 45 ans.
Non, c'était la limite d'âge, 45
oui,
ans.
Oui, non, mais c'était sortait. Le max. Vous avez fait le max.
Ah oui, j'ai fait le max.
Au niveau.
J'arrive en 90.
Démarrer plus tôt dans l'absolu. On peut démarrer à 28 ans.
Oui, mais comme je l'explique dans le livre, moi, j'ai perdu du temps parce que j'étais un peu hors norme, un peu trop impétueux. Et j'explique les situations compliquées que j'ai rencontrées dans ma carrière et sur lesquelles je m'en suis sorti avec des fois de la chance, à des fois le destin. Mais c'était pas simple de sortir quand on arrive trop jeune. Moi, je suis arrivé à 14 ans. À 14 ans, à l'époque, dans les années 70, on jouait au ballon. Il n'y avait pas d'arbitre. Oui, ça n'existait pas, des jeunes arbitres.
Vous observez un match d'amis. On vous dit, alors c'est chaud sur le terrain. On vous dit, Gilles, vous êtes jeune, viens arbitrer. Tu vas comprendre ce que c'est. Tu parles trop sur le terrain.
Non, c'est pire que ça. C'est que mon côté chambreur était déjà là, puisque tous les samedis avec mon voisin et ami de club, on descendait jouer sur le terrain annexe au stade du Ré, qui s'appelait le stade Gorbella. Et à partir de là, on jouait. Et puis j'ai vu passer mon entraîneur des minimes de l'OGC Nice où je jouais, qui jouait dans une équipe corporative, en l'occurrence le Crédit Agricole, sur le grand terrain de Gorbella. Et j'ai dit à Luc, j'ai dit viens, il est tout le temps en train de nous chauffer, on va aller sur la butte et quand il va se louper, on va lui dire ce qu'on pense de son pied droit et de son pied gauche. Donc on est allé là-dessus et on s'est assis sur la butte. Et quand on s'est retrouvé sur la butte, au bout de 5 minutes, il y a eu bagarre générale.
Oui.
Ils se sont mis sur la gueule. Moi j'ai dit à Luc, j'ai dit viens, on se casse, ça sent pas bon, on n'a rien fait.
L'un vous rattrape.
Et donc on part et j'ai dit mais pourquoi ils se battent? Il m'a dit mais t'as pas vu, c'est le libéro de l'équipe adverse qui a le sifflet, il siffle tout pour eux. Donc les autres, ils se sont mis dessus.
Mais si on les a tous fait les matchs au niveau amateur où c'est le père ou l'oncle de machin qui fait la touche.
Ouais, non, t'as
c'est ça, avec le chef de garde, tu fais que lever.
Quel t-shirt.
Voilà, la vocation commence comme ça. Alors, premier match, ça c'est intéressant, à la Mosson, chez Loulou Nicolin. On est en 90, Montpellier-Toulouse, d'un côté Valderrama, de l'autre Beto Marsico.
Ouais.
Laurent Blanc à Montpellier.
Ouais.
Premier carton jaune de Gilles Vessière. Vous allez me dire si ce nom vous dit quelque chose, évidemment, moi ça je me rappelle. Jean-Manuel Tétis.
Bien sûr.
Jean-Manuel, je vais te dire, j'allais en vacances à la Grande Motte et je le croisais souvent au casino de la Grande Motte.
Tu l'appelais Jean-Manuel, ouais, Jean-Marc.
Je connaissais. Ouais.
Jean-Manuel Tétis.
Vous expliquez
auprès de Laurent Blanc à l'époque, qui est capitaine. C'est Laurent Blanc, vous allez vous justifier auprès de Laurent Blanc. C'est ça. On est en 90.
À l'époque, pour sortir un joueur, il faut un coup de hache, quoi. Il n'y a pas de carton rouge.
C'est vrai.
Il faut
s'en souvenir.
Il fallait un coup de hache pour qu'on sorte un joueur, quoi. On n'avait pas cette culture de la sévérité. C'était compliqué pour les attaquants, hein. D'où le problème Van Basten qui va arriver. Et j'arbitre ce match-là, donc c'est mon premier match. 48e minute. Donc j'ai 48 minutes de D1. Je donne un coup franc sur le côté gauche et carton jaune à Tétis. Et j'appelle Laurent Blanc. Je dis, s'il me refait le même, il sort. Et Laurent Blanc me dit, monsieur Vessière, vous arrivez en première division, il va falloir apprendre, rester calme. J'ai dit, écoutez, Laurent Blanc, moi j'arrive, mais je veux rester. Mais lui, s'il continue, il sort. le ballon, le coup franc est tiré, il rentre dans la surface de réparation, dégagé par Montpellier, je me déplace, et sur le côté gauche, raf, un gros tacle assassin côté d'un gars de Montpellier, je me rapproche, mon numéro 4 Tétis, donc rouge. Et là, j'ai tout Montpellier qui vient sur moi, parce qu'à l'époque, quand tu mettais un rouge, il y avait la,
oui,
y avait la horde sauvage. Et là, je leur dis, les gars, vous débrouillez avec Laurent Blanc, j'ai tout expliqué avant. Et Blanc est arrivé devant, il a dit, foutez-lui la paix, j'aurais dû le dire à Tétis, il m'avait dit avant.
C'est
mon premier match.
Belle preuve de pédagogie avant.
Non, mais ce qui est vrai, c'est
prémuni avant de.
Ce qui est dur, c'est que dans les années où Gilles Vessière a arbitre, comme il le dit, il n'y a pas l'habitude encore d'être protéger les joueurs à ce point, au point d'aujourd'hui, il y a aussi des joueurs très très durs et très physiques derrière. Ouais. Il y a des chats, mais Jean-Manuel Tétis, c'était quelqu'un de dur. Ouais. On a parlé l'autre jour des gars là, Martigues, Pounevatchi, les histoires. À chaque fois, il y avait des défenseurs qui étaient là pour cartonner.
Vous pouvez parler, Gilles, puisque vous l'avez évoqué juste avant, là, le, je sais pas ce qu'on appelle ça, la jurisprudence, le cas Van Basten, qui a changé l'arbitrage.
Tout à fait. Le tacle par derrière, après que Van Basten ait été le cas le plus important, parce qu'il a eu X blessures, et ils ont été obligés de modifier le sur la Coupe du Monde 94. Et on attaque 94-95, donc l'année 95, et là je me retrouve avec le match au sommet entre Nantes et le Paris Saint-Germain. On n'a pas encore eu de ce fameux carton rouge pour un tacle par derrière, ce premier carton rouge. Et malheureusement pour moi, puisque je suis de l'OGC Nice et celui que je vais expulser était un ancien de l'OGC Nice, c'est sur Jaffet Tendoram, c'est Daniel Bravo qui tacle par derrière au Parc des Princes sur le match au sommet pour le titre. Et je mets le carton rouge directement. Et là-dessus, ça a fait une polémique d'un autre nom, parce que ils ne comprenaient pas qu'on pouvait d'ores et déjà sanctionner. C'était nouveau, mais c'était, je pense, le bon choix.
Et finalement, c'est rentré dans les mœurs maintenant, le tac par derrière.
C'est effectivement une grande évolution de l'arbitrage.
Ça voudrait dire que peut-être ce qui est en ce moment un petit peu compliqué avec la VAR, peut-être que dans 10-15 ans, au même titre que le tac par derrière, ça va rentrer dans les mœurs et finalement. Ouais.
On parlera d'ailleurs. Votre avis sur l'assistance vidéo, on en parlera aussi.
Il y a une adaptation importante parce qu'en plus, JVC a connu le 92, la passe en retrait au gardien, etc. Il y a des changements de règles qui sont capitaux pour les arbitres. Ouais. Mais justement, moi, je vais faire un lien avec ce qu'on a vécu en finale de la Ligue des Champions. Vous avez vu l'arbitrage de la finale. Moi, il y a un truc qui me paraît important et j'étais à fond là-dessus, c'est le gain de temps, les problèmes de gain de temps. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de règles. On va en voir des nouvelles d'ailleurs
à l'occasion de la Coupe du Monde. On en parlera tout à l'heure.
Et j'ai trouvé, moi, plutôt bien ce qu'a fait l'arbitre, puisqu'on a vu qu'Arsenal était dans cette logique du gain de temps. On savait qu'en temps effectif, Arsenal avait le moins de temps effectif des équipes. Tout ça, les arbitres le savent aussi. Et ce qu'il a fait sur le corner de la fin de première période, finalement, en voyant que Saka voulait encore gagner du temps, en lui disant bah, stop, dans ce cas-là, il n'y a plus de corner, tout le monde au vestiaire. Est-ce que vous considérez que c'est quelque chose dans le caractère, au moins, que vous auriez pu faire?
Non, moi, je suis pas. Je vous accorde crédit à vos propos et c'est bien en 2026, mais je ne suis pas d'accord sur comme beaucoup de choses. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'était un livre autobiographique, oui, dans les deux premières parties, mais après, je rentre un petit peu dans le dur et j'ai le courage de dire ce qui n'a jamais été dit. Moi, je l'ai dit sur un très bel article, et je remercie Eric Galliano de ce matin qui a eu le courage de bien l'écrire. Pour moi, aujourd'hui, ce livre, ce qui est important, c'est que j'ai eu envie, à un moment donné, j'ai entendu trop de conneries et j'ai eu envie de donner un peu la main aux journalistes.
C'est-à-dire trop de conneries?
Ben, j'entends trop de conneries parce que c'est le café du commerce quand vous allez. Non, mais partout, dans n'importe quel journal, dans n'importe quel.
Sur quel thème, par exemple, exemple.
Ils sont tous entraîneurs, ils sont tous arbitres, mais il y a aucun travail derrière. Alors je me suis dit, la corruption. Parlant de la corruption, oui, il y a eu corruption. Je le dis, j'explique comment certains matchs ont dérivé.
Dans le foot, en Ligue 1
En Ligue des Champions.
En Ligue des Champions,
je l'explique dans les matchs, comment des matchs ont dérivé.
Mais... Bah, expliquez, parce que les gens qui nous écoutent, là, ils sont tentés, ils iront acheter le livre, mais on a envie de savoir.
Vous allez répondre à Faro. Mais là, quand même, vous avez un petit peu chauffé sur la corruption, c'est important, vous en parlez dans le bouquin.
Non, mais je voudrais revenir, parce que sa question était très intéressante. Vous avez raison, vous avez raison sur la forme, mais moi, je ne suis pas d'accord, parce que. On a tout dans les 17 lois du jeu. Et notamment, je le dis dès l'introduction de mon livre, on a ce fameux pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionaire, c'est à l'arbitre par rapport à ce qu'il sent, ce qu'il voit. Donc, s'il le fait à la mi-temps, je ne suis pas d'accord. C'est comme ce fameux carton jaune que tu mets au gardien à la 88e alors qu'il perd du temps depuis la 5e, la 6e ou la 7e parce qu'il mène à 0.
Donc, il l'a fait trop tard. Il leur a dit trop tard.
Bien sûr. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est qu'à un moment donné, si tu veux soigner, commence par soigner d'entrée dans le premier quart d'heure, quitte à prendre des risques. Il faut avoir le courage. On a tout dans les lois du jeu. Et on le voit sur ce qui est en train d'arriver. Regardez.
Gilles Vessière, je vous coupe, désolé, balle de match à Roland Garros. C'est Eric Salio.
Balle de match à numéro 7 pour Mentic. Il tente une amortie. Ouais, Fonseca, il pourra pas y aller aussi, mais en deux temps. Mais Mentic va le surprendre sur une contre-amortie. Magnifique victoire de Jakub Mensik, 6-4, 6-3, 7-6. Il est en demi-finale de Roland-Garros où l'attend Sacha Zverev. Ce sera vendredi. Ils se sont joués le 28 avril à Madrid, les deux. Ça avait fait 6-4, 6-7, 6-3 pour Zverev. Ça peut être un beau match.
On verra ça. En tout cas, parce que là, le niveau de Mensik, waouh, chapeau. Hein.
Si Mensik gagne Roland-Garros, on l'a celle-là.
Je suis tellement déçu pour Joao.
Tout à fait. Mais il est jeune encore, 19 ans, Joao Fonseca. Bonne soirée à toi, Eric. Dans un instant,
tu as les Corda Muster, tout ça, là.
Ah, oui, ouais,
t'as pas, Corda, t'as pas les gros vainqueurs, les gros noms, et puis ouais, t'as un mec qui va.
La première de Bruguera,
qui prend la faille.
Il y a encore Zverev quand même.
Ah, Zverev.
Qui est plus que jamais le grand favori quand même.
Et Berrettini.
Moi, je vois Mensik sortir Zverev.
Ah
bon?
On verra.